Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous servir. Alors, aujourd'hui, c'est une prédication un peu thématique, c'est pas mon genre, je suis assez textuel à la base, mais on va se poser la question. D'ailleurs, on vient de chanter « Je te bénis, Seigneur ». Qu'est-ce que ça veut dire bénir ? Bénir Dieu, bénir les autres, qu'est-ce que ça signifie ? Comment comprendre cette réalité ? La bénédiction, le fait de bénir, ça traverse toute la Bible. Et donc, c'est important de vivre cet acte de bénédiction. Et nous le verrons aussi que ce n'est pas simplement quelque chose, un sujet, mais c'est une attente, c'est une demande de Dieu à notre égard. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce terme ? Quand on dit bénir, on peut peut-être penser au prêtre hein, qui va bénir une maison, une voiture, je ne sais pas, une ambulance. Alors en tant que protestant, on a de la peine, sans doute avec raison, avec ce type de geste. On a peur de voir un geste un peu, une demande de protection un peu magique comme ça, où en plus on asperge avec un peu d'eau consacrée les objets ou les maisons. Mais en même temps, pour regarder à nous-mêmes, parce que c'est toujours facile de pointer du doigt les autres, n'arrive-t-il pas que quand nous prions pour le repas, nous demandons à Dieu de bénir la nourriture comme s'il fallait, je ne sais pas, une espèce d'onde ou de truc qui vienne transformer cette nourriture pour la rendre mangeable ? Alors ça dépend chez qui on est, hein, je comprends. Peut-être qu'on a peur d'être empoisonné, mais cette histoire de bénir la nourriture, c'est aussi peut-être quelque chose qui est un petit travers comme ça, pas bien grave, hein, mais bon, qui montre qu'on a des instincts un petit peu magiques comme ça. Mais en même temps, c'est vrai que le Seigneur nous demande à être reconnaissants pour la nourriture, par exemple. Et en fait, quand nous prions, nous bénissons Dieu pour elle. On va voir ce que ça veut dire. Nous remercions Dieu pour la nourriture. Mais on ne trouve pas de prière pour que la nourriture soit bénie dans la Bible. Voilà. Quoique. Il est écrit, mais dans une partie de Marc dont on n'est pas sûr de l'authenticité, que des gens mangeront ou boiront des breuvages empoisonnés et ne mourront pas. Mais c'est dans la fin de Marc qui n'est pas authentique. De plus, on voit d'un côté aussi, en dehors de bénir les gens, etc., des exhortations à bénir Dieu. Par exemple, le psaume 96 nous dit « Chantez au Seigneur, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut ». Regarde juste où j'en suis. Ouais, c'est bon. Ouais, je suis un peu d'avance, c'est pas grave. C'est bien, comme ça vous le dites à l'avance. Donc, on va voir aussi qu'on bénit Dieu d'un côté, puis on bénit les gens aussi de l'autre. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est le même type de bénédiction ? Est-ce qu'entre nous, si on nous dit de bénir, on va voir ensemble que Dieu nous demande de bénir, Jésus nous demande de bénir, il faudrait quand même comprendre ce que ça veut dire précisément. Alors, la première grande réalité, c'est que bénir, c'est notre vocation, c'est notre appel. Dieu nous le demande. Et déjà, le Seigneur nous en fait le commandement. Jésus, dans le grand enseignement au début de son ministère, qu'on appelle le sermon sur la montagne, dit ceci, et je prends la version dans Luc, puisqu'on a deux versions dans Matthieu et Luc. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Paul, qui est imprégné par les enseignements du Christ, bien sûr, dit à peu près la même chose aux chrétiens de Rome. « Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. » C'est marrant, quand on parle des fois de chrétiens persécutés, on entend plutôt des gens qui râlent, qui se plaignent et qui ne bénissent pas les persécuteurs. Pierre, dans sa première lettre, qui est une lettre envoyée à des chrétiens persécutés, reprend lui aussi l'idée. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. » Cette dernière phrase me touche en particulier, puisque non seulement c'est un commandement, mais il y a l'insistance que c'est notre appel à nous, les chrétiens, de bénir, bénir. Et le Saint-Esprit me ramène régulièrement à cette vérité. Dans sa pédagogie bienveillante, me rappelle que ma vocation, c'est la bénédiction. Alors, à quel degré est-ce que nous obéissons à ce commandement, ou nous désirons obéir à ce commandement de bénir ? Si ça fait partie de notre vocation à tous, ce n'est pas seulement certains, encore moins des ecclésiastiques ou je ne sais quoi, eh bien nous sommes tous enjoints de pratiquer cette bénédiction. Un autre aspect, j'espère que ça marche, paf, c'est bien le grand bouton. Ah oui, ça vibre en plus, c'est incroyable. Voilà, ça fait partie de notre témoignage chrétien au monde. Dans ce monde, et parfois dans l'Église, hein, confessons-le malheureusement, le jugement, voire la haine, sont érigés, sinon vertu suprême, en tout cas bien entretenus. On voit une société de plus en plus marquée par, pas simplement par l'expression des désaccords, mais par l'expression de la haine, et à la haine s'ajoute la violence. Dieu, lui, nous enseigne que notre vocation est tout autre. Nous devons bénir ceux qui nous détestent ou qui nous veulent du mal. Alors, comment comprendre cet étrange comportement ? Eh bien, bénir nos ennemis appartient au témoignage de notre foi. C'est en cela que nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons présenter au monde une manière d'agir qui est alternative, qui manifeste le caractère de Jésus, qui ne fonctionne pas à la manière de ce monde. Nous devons présenter, c'est sans doute un des sens de l'Église, c'est bien sûr un but à atteindre, un horizon parfois très éloigné, mais de nous dire, en tant que communauté croyante, est-ce que nous montrons au monde qui nous entoure ce qu'est une humanité que le Christ anime et dirige ? Ou bien, pris dans nos querelles et dans nos étroitesses, finalement, nous n'offrons pas au monde qui nous entoure une alternative qui donne envie de rencontrer notre Seigneur ? Pierre l'explique. Je vais bien voir. Voilà. J'ai très mauvaises lunettes. On voit, c'est génial d'avoir l'écran là, mais j'ai des lunettes de lecture, donc c'est l'âge. Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans nos corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Donc notre imitation de Jésus nous confronte notre société, devrait confronter notre société à sa méchanceté. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'idéalisme naïf, ce n'est pas du laisser aller que de bénir ceux qui nous insultent, que de ne pas répondre. En anglais, on a un terme qui s'appelle knee-jerk reaction, la réaction du genou qui monte. Vous savez, comme quand on tape une table, on tape sur le genou, ça part. Quoi. Il ne faut pas que nous fonctionnions en knee-jerk avec le genou qui part comme ça. Il faut que nous soyons animés par l'esprit et que d'autres impulsions nous guident. Donc si nous bénissons au lieu de maudire et d'insulter, nous sommes en nous-mêmes un appel envers l'autre à changer d'état d'esprit, à se tourner vers Dieu, à faire la paix, à trouver le chemin de la grâce et de l'amour. Parce que si on est conscient aussi de la grâce dont on est l'objet, on a beaucoup moins besoin et envie de montrer au monde ses turpitudes dont nous pensons être exemptés nous-mêmes. Mais quand on se regarde un tout petit peu de plus près, on réalise qu'on a peu de leçons à donner, sinon celle de la grâce. Et puis il faut sortir des colères, des passions destructrices. Je le vois dans ma propre vie, on est des fois emporté sur certains sujets théologiques, sujets éthiques, et puis dans nos combats pour la vérité, nous en devenons imbuvables, insupportables, agressifs et désagréables. Il y a un petit terme, je me rappelle un entrepreneur pompe funèbre, on parlait d'une personne proche de moi qui n'était pas croyante, qui était décédée, puis on se demandait ce qu'il fallait faire sur le plan religieux, puis il a dit, vous savez, moi, je n'ai pas de conditions, de conviction religieuse particulière, mais il y a une chose que je trouve importante, c'est que la religion devrait rendre les gens meilleurs. Alors, dans son langage. Mais la question qu'on peut se poser à soi-même, et moi je le dis souvent, quand ta religion te rend méchant, pose-toi des questions. Quand ton christianisme fait de toi une espèce de de guerrier, insulteur, une espèce de brute comme ça, qui fait plus attention aux gens, qui au nom de la vérité est prêt à les pulvériser. Demande-toi si tu es encore dans l'évangile du Christ. Et des fois dans des débats entre chrétiens, parce qu'on est très fort, hein, plus on se ressemble, plus on se fait des misères. Hein. Des fois dans des débats de chrétiens, ça ressemble à des batailles de chiffonniers. On peut se demander, mais où est l'évangile dans cette manière d'entrer en relation? Des fois, les gens ne supportent pas qu'on ne puisse pas être d'accord sur un point et pourtant être des frères et sœurs en Christ. Mais oui, c'est possible. C'était comme ça dans le Nouveau Testament, je vous assure. Alors, bénir, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce que c'est. Voilà, j'espère que ça marche. Oui, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Bénir les hommes, on va voir déjà. Bénir les hommes, c'est demander que Dieu les bénisse. Alors, vous avez un joli artefact, c'est tout petit, hein, c'est à peu près cette taille-là. La plus ancienne copie assurée du texte biblique, qui date de 600 avant Jésus-Christ. On aimerait que ça date de plus anciennement, mais on l'a trouvé. On a trouvé près de Jérusalem, à Ketef Hinnom, sous une église écossaise, ça ne s'invente pas. Donc ça a été construite sur des ruines de quelque chose. Et environ à 1 km du mont du Temple, vers Bethléem, on a trouvé dans le sol d'un tombeau qu'on avait beaucoup fouillé, puis finalement on avait arrêté les fouilles, et puis il y avait encore un jeune arabe qui a commencé à gratouiller la terre quand même. Et on a trouvé donc deux rouleaux en métal qui contenait des extraits d'une bénédiction qui se trouve dans le livre des Nombres. Donc c'était des petits rouleaux enroulés comme ça, et donc ça, il a fallu un travail incroyable des archéologues pour les dérouler sans que tout se casse, vous imaginez, depuis passé 2500 ans que c'était comme ça. Et sur ce rouleau, ces deux rouleaux, il y avait une bénédiction tirée, on va le lire, de cette bénédiction qu'on trouve dans le 6e chapitre des Nombres. Sans doute à l'époque, donc ça veut dire que ce texte était connu depuis un moment, et sans doute quand on a enterré le mort, on a mis ces deux petits rouleaux en demandant la bénédiction de Dieu dans l'au-delà. C'est un peu ça sans doute l'idée, c'est presque des talismans, c'est presque quelque chose qui, voilà, qui est un peu particulier. Et donc cette bénédiction prise partiellement sur ces rouleaux, les gens la connaissent sans doute bien, vous la connaissez sans doute bien, je la lis, c'est la bénédiction des prêtres qui dit « Le Seigneur dit à Moïse, dis à Aaron et à ses fils, vous bénirez ainsi les Israélites, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et que t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Alors, en tant que chrétien, avec notre foi dans la Trinité, on peut discerner ici un aspect de la divinité, de la Trinité. Alors, on ne peut pas dire que ce texte prouve la Trinité, jamais, l'Ancien Testament ne prouve pas la Trinité, mais si on croit à la Sainte Trinité, on la trouve ici. Parce que les trois demandes de bénédiction touchent à trois appropriations respectivement du Père, du Fils et de l'Esprit. Je fais un petit peu de doctrine trinitaire avec vous, ce n'est pas mon sujet, moi je suis prof d'Ancien Testament, mais bon, on s'y retrouve. Les appropriations en doctrine trinitaire, c'est, en théologie trinitaire, ce sont des attributs divins qui sont plus souvent attribués à une personne. Ce n'est pas que les autres n'ont pas cet attribut, mais c'est plus en lien avec telle personne. Ainsi, quand il est dit que le Seigneur te bénisse et te garde, la garde, la bénédiction et la garde sont plutôt des attributions du Père, de Dieu le Père. Qu'il t'accorde la grâce, on parle de la grâce de Jésus-Christ. Bon, c'est pas qu'on dit pas que le Père ne fasse pas grâce ou que le Saint-Esprit ne nous fasse pas grâce, mais c'est moins courant, vous voyez. Et puis, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. La paix est une attribution de l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne la paix. Donc vous voyez, là, il y a déjà tout le mystère de Dieu, de tout son être, mystère de la Trinité qui élève notre cœur vers l'amour éternel, qui lie les trois personnes en toute éternité, avant même que le monde existe. Dieu est amour en lui-même, Dieu n'a pas besoin de créer le monde pour avoir un vis-à-vis, parce que Dieu en lui-même est amour. Tout à l'heure, dans la louange, c'était très bien dit, est-ce qu'on est créé pour louer et célébrer Dieu, mais nous avons été créés, bien sûr, c'est absolument juste, mais nous sommes créés parce que Dieu veut nous rendre participants de cette réalité d'amour en lui. Donc au cœur de toute bénédiction, il y a Dieu, Dieu dans tout son mystère. Vous aurez remarqué aussi, si vous lisez bien le texte, que Dieu demande aux prêtres de bénir les Israélites, mais qu'à la fin de l'instruction, il est dit, le Seigneur dit, « Je les bénirai ». C'est qui bénit, hein, finalement ? Dans le premier cas, la bénédiction par les prêtres s'exprime par des paroles. Et ces paroles souhaitent le bien des Israélites, que ce soit la protection, la faveur, la paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bénir notre prochain au niveau des paroles ? C'est invoquer Dieu pour son bien. C'est demander que Dieu lui fasse du bien. Littéralement, il est dit que les prêtres placent le nom du Seigneur sur les Israélites. Le nom de Dieu est toujours lié à qui il est. Et le nom du Seigneur est lié à son œuvre. Donc on demande que le Seigneur agisse. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur explique en disant « Je les bénirai ». Alors, c'est intéressant de noter deux aspects de cette bénédiction. Tout d'abord, les prêtres bénissent en priant. Ils bénissent avec des paroles. Et en réponse, le Seigneur va bénir avec des actes. Paroles et actes. Paroles de bénédiction, actes de bénédiction. La puissance de bénir appartient à Dieu. Les prêtres eux-mêmes n'ont pas vraiment ce pouvoir. Ils bénissent les Israélites en demandant à ce que Dieu le fasse. Donc, ils ne sont pas revêtus d'une espèce de puissance comme ça, d'électricité, de bénédiction qu'ils envoient sur les gens avec quelques petites passes magnétiques. Donc, quand on bénit quelqu'un, ce n'est pas l'acte, c'est pas une parole magique. Moi, j'ai vu, c'est un peu, depuis quelques années, une mode, les gens qui disent « Je te bénis !» Mes amis, ça ne veut rien dire du tout, ça. « Je te bénis !» Ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a aucun contenu. À moins qu'on se prenne tout à coup pour une espèce de dispensateur, d'onction, de trucs bizarres. Non, on ne peut pas dire à quelqu'un « Je te bénis !» Sauf peut-être dans le sens très dérivé en disant je suis reconnaissant, mais quand quelqu'un vient vers toi et dit je te bénis, je dis non, mais qu'est-ce que tu me souhaites ? Tu m'envoies une bénédiction, ça ne veut rien dire. Ben, regarde la prière ici, peut-être. Je prie que Dieu te bénisse et te garde, qu'il te donne la paix, qu'il te fasse grâce. Donc il faut sortir de ce comportement, parce que le je te bénis, vous avez remarqué que Dieu n'y est plus du tout. Dans la parole, je te bénis, Dieu, oh oh. Ou alors là, c'est un petit rouage, hein, puis on a tiré la manette, on a tiré la poignée, et puis il y a Dieu qui marche comme une horloge, comme ça. Hein, mon trisaïeul a fondé Longine, donc il y a des petits restes d'horlogerie dans mes images. Hein. Il n'y a plus qu'un moi-je qui bénit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette manière d'agir. Voilà. Bon, il y a beaucoup de gens qui le font sans s'en rendre compte. Les vrais prêtres de Dieu, eux, souhaitent que ce soit le Seigneur qui agisse. Et leur parole n'est pas un pouvoir, mais une prière, une demande. Et nous, femmes et hommes, nous sommes tous prêtres de Dieu. On croit au sacerdoce universel, d'après l'Évangile. Le Seigneur nous sommes tous un en Christ. Il n'y a plus d'homme, ni femme, ni esclave, ni juif, ni juif, ni esclave, ni libre, ni juif, ni étranger, ni quoi que ce soit. Nous sommes tous un en Christ. Aucun d'entre nous n'avons besoin de quelqu'un entre nous et le Seigneur. Les femmes n'ont pas besoin de leur mari pour rencontrer le Seigneur. Il paraît, semble-t-il, quand même, que c'est Jésus qui leur est donné comme leur sauveur et Seigneur personnel. Les esclaves ou les serviteurs ne sont pas non plus, quand il s'agit de leur relation et de leur service envers Dieu, sous un maître humain. Et les maîtres eux-mêmes ne sont pas non plus sous qui que ce soit ou au-dessus de qui que ce soit, etc. etc. Je ne vais pas vous dérouler tout l'enseignement de l'Évangile, mais nous sommes des hommes et des femmes, des prêtres de Dieu. Par contre, il y a une expression qui joue tout à fait, qui est dans le langage courant depuis, je pense, une quinzaine d'années. Maintenant, on dit aux gens « sois béni ». C'est un anglicisme bibliste. Et puis bon, bah, comme on aime l'anglais, puis qu'on pense que quand on parle anglais, Dieu nous comprend mieux, on le dit. Mais en fait, « sois béni » va très bien. Parce que c'est ce qu'on appelle dans la Bible un passif divin. Il y a beaucoup d'expressions comme ça dans la Bible. Par exemple, Heureux ceux qui font miséricorde, car il leur sera fait miséricorde. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le « ils seront consolés » sous-entend que l'auteur de la consolation, c'est Dieu. Quand je dis à quelqu'un « sois béni », et que je le dis en tant que chrétien, je dis « sois béni par Dieu », logiquement, pas par le diable, pas par mon chien, ni par les autorités de la Confédération. Je demande « sois béni par Dieu ». Donc, on peut tout à fait utiliser cette expression, même si elle est nouvelle. Moi, j'ai toujours appris, j'avais l'habitude comme jeune chrétien de dire que Dieu te bénisse. C'était ma manière de dire que Seigneur te bénisse. Je ne disais pas beaucoup « sois béni ». Maintenant, tout le monde le dit, je le fais volontiers, parce qu'en plus, ça met l'accent sur une belle formule qu'on trouve dans la Bible. Bénir les humains, là je pense que j'ai déjà avancé, attendez, je suis allé beaucoup trop vite, voilà. Ah non, c'est pas mal. Ouais, ben j'y suis, pour une fois que je suis mon PowerPoint correctement. En général, c'est mon PowerPoint qui me suit, parce que je vais plus vite que lui, alors voilà. Bénir les humains, c'est aussi agir pour leur bien. Paul, dans le texte que nous avons lu précédemment, fait suivre son exhortation à bénir, d'encouragement à accomplir des actes bienveillants dans Romains 12, hein. Rejoindre les autres dans leur joie comme dans leurs larmes, vivre en accord les uns avec les autres, se montrer humble, chercher le bien de tous jusqu'à donner à manger, à boire à ses ennemis. Voilà, pour y lire le programme de Romains 12, 15 à 21. Et on trouve le même type d'appel à ne pas se contenter de paroles quand Jean dit « n'aimons pas en paroles avec la langue, mais en actes et en vérité ». Voilà, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le faire. Voilà. Une question qu'il faut savoir se poser face à une personne en difficulté, c'est comment nous pouvons la bénir concrètement. Comment est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que c'est à moi de le faire? C'est la grande question. Mais si je suis appelé à bénir cette personne, est-ce qu'il y a un geste, un don, une marque d'affection qui peut guérir beaucoup de détresse? Voilà, on peut se poser la question. Ces temps, il y a un petit débat sur Internet, parce que Dieudonné, qui est un antisémite virulent, qui a fait des spectacles avec le multiple condamné Soral, a, au détour d'une phrase, présenté ses excuses aux Juifs. Mais malheureusement, dans un récent spectacle, il a présenté ses excuses aux Juifs, puis après il a déroulé toutes ses récriminations contre les Juifs derrière. Alors là, dans le débat, j'ai dit, mais quand on est chrétien, une repentance et un changement de cœur, c'est la contrition intérieure, les paroles de confession du péché et les actes qui manifestent ces paroles. Dans ce cas-là, malheureusement, je trouve déjà que la parole de contrition était très du bout des lèvres, donc ce n'était pas génial, et puis les actes sont complètement désastreux. Donc j'ai dit, vu que les actes et les paroles ne sont pas à la hauteur, on se doute que la contrition du cœur ne doit pas tout à fait non plus être là. Donc on est dans une situation compliquée. Donc c'est la même chose quand on bénit quelqu'un, si c'est juste des mots, hein, ou bien alors en plus il y a le langage du corps qui dit le contraire, on se sent un peu coincé, puis dit « que Dieu te bénisse quand même ». Alors là, c'est peut-être pas exactement bien engagé, voyez. Bénir une personne, c'est lui dire aussi le bien qu'on lui souhaite. Pierre met en contraste l'insulte. Jésus était insulté, n'a pas répondu par l'insulte, et il met en contraste la bénédiction. Insulter, c'est attaquer une personne, c'est attaquer même jusqu'à son droit de vivre. Finalement, si on dit à quelqu'un tu es nul, c'est que si tu n'existais pas, j'en serais plus heureux. C'est ça, dire à quelqu'un tu es nul, c'est ce que Jésus dit. Si tu traites ton frère de raca, tu es déjà un assassin, parce que il y a juste un pas entre tu es nul et si tu n'existais pas, je vivrais plus heureux, je vais m'arranger à ce que tu ne vives plus longtemps, et comme ça, je serai plus heureux. Vous voyez, on va jusqu'au meurtre. Voilà. Donc, il faut apprendre de vouloir le bien de la personne et de lui dire. Et ça, c'est quelque chose que Dieu peut nous aider. Bénir les gens en leur souhaitant du bien et en le leur disant aussi. Si on ne dit jamais, que c'est toujours sous-entendu, c'est un peu comme ce vieux couple et puis son épouse qui dit au mari, mais tu me dis jamais que tu m'aimes. Puis le mari lui dit, mais écoute, le jour où je me suis déclaré, il y a 35 ans, en te disant que je t'aime, suffit. Si je change d'avis, je te le dirai. On peut peut-être se poser la question, voyez, il y a peut-être besoin de temps en temps, plus que de temps en temps, régulièrement. Nous avons besoin d'entendre qu'on nous aime. Rien ne vaut une parole qui nous souhaite le bien. Dans le monde du travail, on le sait maintenant, au niveau de la gestion, les ressources humaines. Les gens sont des ressources comme du dentifrice dans un tube, enfin, c'est comme ça. Mais un employeur face à son employé, s'il lui dit jamais, eh bien, merci, vous avez fait du bon boulot, vraiment, je vous encourage. Et puis qu'il est permanemment en train de mettre sur la sellette son employé pour qu'il en produise plus. Puis écoutez, monsieur, là, ça ne va pas. Ça. C'est bien de dire quand ça ne va pas, mais il faut être capable aussi de dire quand ça va. De la part de l'employé aussi, dire, écoutez, patron, moi, j'ai vraiment apprécié la manière dont vous engagez l'affaire. Je me sens de cœur avec vous. Vous voyez, c'est des petites leçons, bien sûr, humaines, mais qui, finalement, je pense, sont éclairées par l'Évangile. Savoir dire aux gens, pas simplement les exigences, pas seulement quand ça ne va pas, mais aussi souhaiter que les choses aillent bien. Bénir une personne, alors ça c'est peut-être le plus difficile, c'est dire du bien d'elle. Voilà, ouais, c'est dire du bien d'elle. Et c'est ici que nous pouvons bénir Dieu, parce qu'on se dit, mais Dieu, mais il se suffit à lui-même, il est heureux en lui-même, il n'a pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider Dieu? Vous rigolez, on n'aide pas Dieu. Je veux dire, c'est pas du tout ça, il est quand même Dieu, quoi, faut pas oublier. Donc bénir Dieu, quand on le dit, nous bénissons le Seigneur, etc., c'est que nous disons le bien de lui. Bénir Dieu, c'est le louer, c'est reconnaître ce qui est bon en Dieu. Ou même reconnaître que Dieu est parfaitement bon, parce qu'il n'y a pas ce qui est bon puisqu'il est moins, ne me comprenez pas de travers. Hein. Nous n'avons pas le pouvoir de faire du bien à Dieu. Sinon, il serait juste un objet, une créature de ce monde. Non, Dieu est Dieu. Mais le psaume 66 dit « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que notre pied trébuche. » Ce n'est pas deux parties séparées, ce verset. Bénir Dieu, c'est dire notre reconnaissance de ce qui nous a conservé la vie et qu'il a permis qu'on ne trébuche pas, qu'on a évité la mort ou la chute ou je ne sais quoi. Dire du bien de Dieu ou des gens, c'est dire du bien d'eux. Mais ça ne va pas de soi. Ça demande de la volonté, ça demande de l'éducation. C'est peut-être un peu comme les merci s'il vous plaît qu'on apprend aux enfants. Hein. Alors il est où le mot magique, s'il te plaît? Ah ben voilà, tu auras droit, voilà, etc. Ou merci, hein. Voilà, savoir dire merci, toujours important. Le psaume 103 voit le croyant s'exhorter lui-même à le faire, verset très connu, hein. « Bénis le Seigneur, ô mon être, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, bénis le Seigneur, ô mon être, et n'oublie aucune de ses bonnes actions. » Donc il faut un petit peu se pousser, s'encourager, s'exercer, faire son jogging mental, spirituel, intérieur. Ça ne vient pas tout seul, ça se développe, ça se transforme au long de notre vie. Et puis dire du bien des gens, vous êtes d'accord que ce n'est pas très facile. On est très tenté de souligner ce qui ne va pas chez l'autre, surtout quand c'est vrai. Je ne parle pas de la calomnie quand on ment. Mais des fois, on se sent quand même des grands porteurs de la sainte et pure vérité en disant tout ce qui ne va pas chez les autres. Mais ça s'appelle la médisance. Quand on dit des méchancetés de manière non mensongère, parce que quand on ment, c'est de la calomnie, ça c'est carrément voilà, faux. Mais si on se nourrit à tout le temps dire ce qui ne va pas chez les autres, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas, parce que sinon, dans un dialogue de confiance, on peut à peu près vraiment tout dire. Mais si on est permanemment le seul moteur qui est en nous, c'est le moteur du chasseur à l'affût, hein, le moteur peut-être même du fauve qui guette sa proie en se disant, voilà, celle-ci, celle-là, je vais être pour elle le révélateur de ce qui ne va pas dans sa vie, et c'est ma vocation. Voilà. Je me rappelle, je m'étais un peu dans une église tout au fin fond de la France, quelqu'un avait découvert que j'étais un pentecôtisant, comme je le suis, et puis il y avait un monsieur qui m'a sorti tous les arguments contre le Saint-Esprit, puis à la fin il a dit « Ouais, je sais, je sais, les gens me considèrent que je manque beaucoup d'amour, que j'ai pas beaucoup d'amour envers les gens, mais moi j'ai le don de la pureté doctrinale. Waouh !» Eh bien, dis donc, ça ressemblait plus à du vitriol qu'à... Bon, ça ne m'a pas plus perturbé que ça, parce que c'était... Voilà. Mais justement, parce que comme il n'avait aucun amour dans ce qu'il disait, ça disqualifiait complètement ce qu'il avait à dire. J'ai vu une satire de Desperate Housewives. C'est pas le genre de série que je regarde parce que c'est plutôt une série pour les dames. Vous savez, c'est ces dames qui vivent dans une banlieue américaine et qui passent leur temps à se faire des crasses les unes aux autres, des jalousies, et puis voilà, etc. Puis là, il y avait une parodie, une petite satire, un petit clip où on voit ces dames qui se retrouvent en train de boire le thé chez elles. Et puis une de ces dames, relativement riche, classe moyenne, supérieure, elle dit, dites donc, est-ce qu'on pourrait pas, on pourrait peut-être changer, on va essayer quelque chose, est-ce qu'on pourrait essayer de dire du bien les unes des autres? Puis tu as toutes les autres qui la regardent, puis qui lui disent, mais tu crois pas que ce serait dangereux? Ouais, c'est dangereux des fois de dire du bien des gens. Hein? Bénir, c'est dangereux. Bénir, c'est dangereux parce que ça change les relations. Bénir, ça nous met aussi en position, je pense aussi, de vulnérabilité. Et je crois que nous devons tous apprendre à nous exercer à bénir. C'est une discipline, une habitude qu'il faut enseigner à notre cœur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, bénis mon prochain, ô mon âme aussi. J'ai besoin intérieurement de m'éduquer à ça. Et c'est vrai qu'il faut souvent remettre le travail sur le métier, hein, voilà, chasser le naturel, il revient au galop, quoi. Et bénir Dieu, ben, c'est quelque chose de très important. On peut tomber tout à coup une espèce de vie spirituelle qui est faite que de demandes, par exemple. On ne fait plus que de demander à quelque chose, puis on ne s'arrête pas pour dire, mais Seigneur, oui, on ne voit que ce qui ne va pas. Puis c'est vrai qu'il y a des moments, ce qui ne va pas, ça prend la place, hein, dans notre vie. Puis il y a des moments plus difficiles ou plus faciles pour ça. Mais il faudrait même que dans le plus profond de ce qui ne va pas, on se rappelle qui est Dieu, ce qu'il a fait. Peut-être pas précisément dans ma petite vie à moi, mais Jésus est quand même monté sur la croix. Quoi, il est venu vers moi, il est monté sur la croix, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il m'assure mon salut, etc. Donc même quand tout fiche le camp, quand je sens même plus la présence de Dieu, j'ai l'impression d'être complètement déconnecté et enfermé dans un tourbillon sombre, et le Seigneur permet qu'on traverse ce genre de vallée ou de tempête, eh bien, c'est là que nous devons maintenir notre reconnaissance, même si on ne le sent pas, même si quelque chose en nous dévore autrement, de dire, Seigneur, je crois que tu m'as sauvé, malgré tout ce que je peux vivre, malgré peut-être tout ce qui vient de dire le contraire. C'est vrai, quand même, on se déçoit quand même pas mal, non? Il y a quand même des moments où on dit, mais Seigneur, mais comment est-ce que tu peux sauver un type comme moi? Ah, mais voilà, j'ai de nouveau craqué, j'ai de nouveau eu ce sale tour d'esprit, ce caractère, j'ai de nouveau mal réagi, j'ai de nouveau pris toute la place, j'ai de nouveau réagi avec colère au moment où je devais écouter les gens, j'ai réalisé, quelqu'un venait me voir pour un entretien, puis j'ai surtout parlé de moi-même, je me sens honteux, je suis nul, etc. J'ai eu telle mauvaise pensée dans ma sexualité, dans mon rapport aux autres, etc. Je me suis laissé emporter, j'ai été un internet warrior, à aller attaquer les gens sur un forum, je m'en veux. Eh bien, c'est là qu'il faut éduquer son cœur à bénir Dieu pour son salut et se fonder sur lui. Donc, pour conclure, ben, nous sommes appelés à bénir. Donc, il faut suivre Jésus, il nous a montré l'exemple. Il faut demander à Dieu de bénir notre prochain. Il faut bénir les gens en leur faisant concrètement du bien, d'une manière ou d'une autre. On peut bénir les gens aussi en leur disant le bien que nous pensons, nous désirons pour eux. Nous pouvons bénir Dieu aussi en nous rappelant et nous réjouissant de tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis bénir aussi les gens en disant du bien d'eux, plutôt que tout le temps nourrir ce que notre médisance naturelle nous pousse à faire. Peut-être comme petit exercice dans les jours qui viennent, pensez à une ou deux, on va se donner un petit travail, une personne avec qui ça ne joue pas, vous avez vraiment de la peine. Ça peut être dans l'église, non, jamais. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans la vie, quelqu'un. Et d'oser maintenant poser un regard qui dit, maintenant je ne vais plus me laisser obnubiler par les aspects négatifs de cette personne, ça peut être même des aspects qui nous ont blessés, hein, etc. Mais Seigneur, je remets cette personne, elle t'appartient ou elle est sous ton regard, et je te prie de la bénir pour qu'elle devienne vraiment la personne qu'elle devrait être. Je la remets à ta bénédiction en te remettant aussi toute la charge, toutes les attentes que j'aurais de justice, d'apaisement. Je remets en tes mains, je ne veux plus être pollué par ça, et je te remets cette personne en tant que créature, peut-être aussi complexe et mystérieuse que je le suis. Et puis je te demande la bénédiction, la garde, la paix, la grâce. Ouais. Bénissons nos ennemis. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. et pour la vocation que tu nous adresses. Et nous voulons, Seigneur, assumer de manière consciente et exercer, Seigneur, notre vocation à bénir. Non seulement bénir les gens qui nous font du bien, mais bénir aussi les personnes qui nous effraient. Tu vois, Seigneur, notre monde aussi est déchiré. Il y a des autorités, des puissances, parfois, qui sont effrayantes. On peut penser à ces dictateurs qui, partout, que ce soit en Iran, en Russie, en Chine, persécutent des populations. Et bien, ces hommes-là, qui tiennent le pouvoir de manière abominable pour certains, nous te prions, Seigneur, de les bénir, parce que c'est seulement ton œuvre puissante qui peut changer leur cœur. Seigneur, nous pouvons prier pour des autorités injustes afin que tu les bénisses, non pour les approuver, mais pour transformer les situations. Tu vois, Seigneur, je ne vais même pas faire la liste de toutes les affreuses choses qu'on entend et qu'on voit, Seigneur, mais apprends-nous aussi à bénir ces ennemis-là, ces gens qui ne veulent pas du bien envers nous. Bénissons, Seigneur, apprenons, Seigneur, à ton écoute et par ton esprit, à bénir et à ne pas maudire. Amen.